see a kayam out and every thief is a liar, every liar is a thief. Chronic, your mouth never eats, no sleep, no slumber. Baby. So me know you is a Peter Plunder. Come like in a fear the man we roll the thunder. Never. So me feature I'll cast a 32 teeth as sunder. Hey. Oh, yeah. Your mouth I go put you in a problem.
Deep, deep problem.
And ain't nobody never tell
me.
De la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Jean-Claude Mabéa.
À la une de cette édition de la mi-journée de ce mardi sur Radio de la Paix. Fonction publique, plus de 72 000 candidats pour 375 concours administratifs. Lancés samedi à Yamoussoukro, les épreuves se déroulent dans 9 centres de composition repartis sur l'ensemble du territoire national. Et cette année, l'accent est mis sur la lutte contre la fraude et la corruption. Les précisions de la directrice de cabinet du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration en début de ce bulletin. Un atelier de validation du plan stratégique de gestion environnementale et sociale du programme d'appui au développement des filières agricoles a été organisé récemment à Korogo. Guerre israélo-palestinienne, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Égypte ce mardi pour parler d'une trêve à Gaza. Et en fin d'édition, Paul-Bénédicte Bolou recevra le directeur de l'économie verte, Dr Owo Bosho Didier, pour parler de l'élaboration du catalogue des PME vertes dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information qui nous conduit à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où la directrice de cabinet de la ministre de la fonction publique, Kaba Nasséré, accompagnée de plusieurs membres du ministère et du préfet du département de Yamoussoukro, a procédé le samedi 17 août dernier au lancement officiel des compositions de la session 2024 des concours administratifs au lycée mixte de Yamoussoukro. La représentante de la ministre Anne-Désirée Ouloto a exhorté à l'occasion les candidats et leurs familles à éviter la fraude tout en les invitant à s'approprier les valeurs d'honnêteté, de loyauté et d'excellence. Écoutons à cet effet la directrice de cabinet du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Kaba Nasséré.
Au niveau national, il y a 92 766 candidats au total pour 375 concours à organiser cette année 2024. Et pour ce week-end, nous avons 45 concours et un peu plus de 14 000 candidats sur l'étendue du territoire. Nous avons l'habitude de faire le lancement à Abidjan et cette année, on a décidé de venir à Yamoussoukro. Par rapport à la politique de concentration du gouvernement, depuis que Madame le ministre d'État est en fonction, elle a déconcentré l'organisation des concours et en plus d'Abidjan, nous avons 9 villes où nous organisons les concours de la fonction publique. Nous battons tous les jours pour rendre crédibles nos concours et nous ne pouvons pas le faire sans la participation des candidats eux-mêmes et des parents des candidats. Donc, nous avons lancé le message pour qu'ils puissent éviter tout ce qui est fraude, corruption et se concentrer sur le concours lui-même. Donc, nous leur avons donné des numéros verts et puis la plateforme spatiale pour que en cas de quelque chose qu'ils auraient pu constater qu'ils fassent appel pour faire des dénonciations. Il y va de la crédibilité même de notre administration.
De cabinet du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Kaba Nasséré, ont été recueillis par Émile Yao, notre correspondant à Yamoussoukro. On reste au centre du pays où 5 localités des départements de Boaké et de Botro, dans la région du Gbeke, viennent d'être dotées le samedi 17 août dernier de forages à système solaire par le président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, ONEP, Louis Kwaku Abonoa. La remise de ces équipements uniquement constitue le démarrage d'une opération de dotation d'hydraulique, j'y arrive, dans 570 localités autour de Boaké pour un investissement de 170 milliards de francs CFA, nous apprend Joseph Assalé, notre correspondant régional.
Quelle est la caractéristique des forages à système solaire? Louis Kouakou Abonois, PCA de l'ONEP, Office national de l'eau potable.
Contrairement au système traditionnel, les HVA, où il fallait une certaine force physique pour faire venir l'eau, là c'est un dispositif forage équipé de système solaire pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, surtout les femmes, sans pénibilité.
Il précise que la réalisation des équipements d'adduction en eau potable à système solaire s'inscrit dans le cadre d'un projet.
C'est un projet qui va consister à livrer à terme 1000 forages équipés de systèmes solaires pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, surtout les femmes, sans pénibilité. Il faut d'abord que les populations elles-mêmes s'approprient l'ouvrage, faire en sorte que tout ce qui est fait impacte leurs conditions de vie et ça, en ce moment-là, tout le monde gagnerait. Cela rentre dans le volet hydraulique de la gouvernance de son Excellence M. Alassane Ouattara.
Les bénéficiaires qui disent en être conscients expriment leur gratitude aux autorités.
Famille Ayaoudet, on les remercie beaucoup. Avant, on partait dans la brousse, dans les villages voisins, pour puiser de l'eau. On ne gagnait pas d'eau. Mais aujourd'hui, la population du village, les femmes sont très contentes.
Selon le PCA de l'ONEP, la politique d'alimentation des populations en eau potable reste une priorité pour le gouvernement. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Nous le disions en titre que le programme d'appui au développement des filières agricoles, PADFA en abrégé, a organisé récemment un atelier de validation de son plan stratégique de gestion environnementale et sociale à Korogo. Le correspondant régional de Radio de la Paix qui a suivi cet atelier nous apprend que toutes les parties prenantes ont été informées sur les résultats de ce plan stratégique. Tommy Corona.
Quand on pose un diagnostic, c'est que l'on est parti d'un constat. Quel est ce constat? Réponse avec Messou Edia, coordonnateur du programme d'appui au développement des filières agricoles, PADFA.
Il est important de se poser la question de savoir si, en termes d'impact environnemental et social, tous ces impacts-là sont maîtrisés, sont compris par les bénéficiaires.
Pour ce faire, Dadi Désiré, expert principal, administrateur général de laboratoire et expertise, décline ici ses quelques recommandations.
C'est d'abord un diagnostic organisationnel et structurel de l'ensemble des bénéficiaires. Deuxième recommandation, c'est véritablement les amener à intégrer les exigences d'environnement, de santé, de sécurité et de sécurité des aliments. Si les bénéficiaires sont mieux organisés, sont bien structurés, ils pourront avoir des projets bancables.
À entendre ces témoignages, les parties prenantes adhèrent à l'initiative.
De la Fédération Union Plin des Faits, qui c'est de la région du Tchologo. Avec ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, on pense qu'on va mieux s'améliorer pour leur apporter un peu ce qu'ils demandent.
Yo René, gérant de ITIA SRL, une entreprise dans la transformation des fruits séchés, notamment la mangue à faire Kissé Dougou. Cela pourrait effectivement jouer un rôle important dans la réduction, surtout même des pertes post-récolte, mais également aussi d'améliorer l'aspect environnemental autour des unités de séchage.
Il convient de noter que la mise en œuvre du PADFA vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire, nutritionnelle et les revenus des exploitants agricoles. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
On s'intéresse à présent à la gestion de la filière café-cacao. La plateforme Synapsi Anaprosi a animé une conférence de presse hier à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau qui a porté sur le thème les producteurs de café-cacao face aux enjeux de la filière. Le cadre interprofessionnel, la question du prix Borchon, la situation des coopératives et les exploitations agricoles ont été les points abordés au cours de cette rencontre qui a réuni une cinquantaine de délégués venus de 10 zones de production de cacao et de café. Elle se tient à un peu plus de d'un mois de l'ouverture de la grande campagne de commercialisation du café cacao 2024-2025. Là-dessus, écoutons le président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, Synapsi, Moussa Kone.
Concernant la mise en place de l'interprofession que nous avons vraiment souhaité de tous nos voeux, malheureusement, on a constaté que les gestionnaires veulent fabriquer quelque chose pour s'imposer à nous. Décider pour toi. Sans toi, c'est de décider contre toi. Nous, on vient de dire à nos délégués que nous n'allons pas accepter cela. Tout ce qu'on a comme l'information dans les coulisses, aujourd'hui qui fait état, comme les régulateurs FSC constitués de l'acheteur, qui commencent déjà à créer des conditions pour ne pas avoir des concurrents sur le terrain, tout ça, ça nous inquiète. On avait déjà posé ici, dans la même salle, le problème de prix qui n'a pas été résolu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu merci, le prix n'a pas chuté à l'international. On est à la veille de l'ouverture des nouvelles campagnes. Et cette année, on veut que les producteurs profitent de leur effort. Cette campagne, on a souhaité que l'État prenne son droit unique de sortie pour nous reverser le reste. C'est nous qui endurons toutes les difficultés. L'appel qu'on peut lancer au gouvernement, c'est à l'endroit du président de la République, lui-même, d'être regardant dans la filière café-cacao. La filière café-cacao est malade. Les producteurs souffrent et les coopératives sont en train de disparaître. C'est ça qui n'est pas acceptable. Donc, l'appel au président de la République de se saisir de ce dossier pour réunir tous les acteurs pour qu'on trouve intérêt d'entendre pour que tout le monde se sente concerné.
Le président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, Synapsi, Moussa Kone, à l'instant sur Radio de la Paix. Un mot de culture dans cette édition. Démarré le 18 juillet dernier, la première exposition de l'artiste plasticienne française Barbara Kino, intitulée Errance, a refermé ses portes le samedi 18 août 2024 au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maka. Un mois durant, aux côtés de la quarantaine de tableaux exposés par l'artiste, des détenus ont suivi des ateliers de peinture pour, à l'arrivée, produire eux-mêmes une centaine de tableaux. Des tableaux qui expriment leurs émotions et leurs ressentis, suivant les explications de l'artiste plasticienne française Barbara Kino.
J'étais venue visiter quelqu'un en compagnie d'un ami et au moment de sortir, je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Vu la tristesse et la grisaille des murs et l'ambiance de l'intérieur de la prison, je me suis dit que peut-être grâce à mes œuvres, je pourrais amener un peu de joie, un peu de bonheur.
Un peu de gaieté, ouais.
Et c'est pourquoi j'ai proposé de présenter mes œuvres aux prisonniers et le directeur de la prison a complètement adoré cette idée. Au moins, ça leur permet de se libérer par la pensée.
Vous avez décidé d'initier certains à la peinture.
Et le projet, c'était de mener avec les prisonniers des ateliers de peinture. C'est une joie pour eux parce que certains arrivent et me disent « Mais maman, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. » Je dis « Mais c'est pas grave. Tu prends un pinceau, tu prends de la couleur, tu rajoutes, tu changes de la couleur, tu prends, tu rajoutes. Quand ça te plaît, tu t'arrêtes. Quand tu trouves que c'est beau, tu t'arrêtes. » Leurs émotions transparaissent. Un autre qui peignait et qui tressait une route grise au milieu de prairies un peu colorées. Et il me dit « Tu vois ça, maman, ça, c'est la route de la vérité. »
L'artiste plasticienne française Barbara Kino était au micro radio de la paix de Didier Blé. Dans l'actualité internationale, au Kenya, Collins Jumaisi, 33 ans, avait été arrêté le 15 juillet dernier, quelques jours après la découverte de corps enfermés dans des sacs dans une décharge du bidonville de Mukuru, dans le sud du Nairobi, au Kenya. Ce présumé tueur en série, accusé du meurtre de dizaines de femmes, s'est évadé avec 12 autres personnes d'un commissariat de la capitale kenyane Nairobi, a annoncé ce mardi à l'AFP, la porte-parole de la police nationale, Resila Onyango. Selon les autorités, il a avoué avoir commis 42 meurtres de femmes entre 2022, le premier étant celui de son épouse, et juillet 2024, à la veille de la découverte des derniers corps. Et puis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé ce mardi ses entretiens en Égypte avant de se rendre au Qatar pour pousser à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis accentuant la pression sur le Hamas pour accepter une proposition de compromis. Au 11e mois de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas palestinien contre Israël le 7 octobre dernier, l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré dans la bande de Gaza les corps de 6 otages enlevés lors de cette attaque, dont 5 avaient déjà été annoncés comme décédés, nous apprend l'AFP. Retour en Côte d'Ivoire pour suivre l'invité de la rédaction. Notre invité de ce jour est le directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Docteur Owo Bocho, Didier parle dans l'entretien conduit par Paul-Bénédicte Bolou de l'élaboration d'un catalogue national de PME vertes en Côte d'Ivoire. C'était à la fin faveur d'un atelier de réflexion avec les acteurs de ces PME tenus récemment à Abidjan. Entretien.
Docteur Owo Gbosho Didier, bonjour. Au cours de cette session, une présentation a été faite sur le projet de création d'un catalogue national des PME vertes. On souhaite avoir plus de précisions.
Le monde entier est agité par le phénomène des changements climatiques. Et en Côte d'Ivoire, depuis Rio 92 qui a nécessité le développement durable, le pays s'est engagé sur cette voie. Et dans son élan, un ministère a été dédié à la question de la transition écologique, à la question du développement durable. Et dans son prolongement, le ministère s'est doté d'une direction, dite direction de l'économie verte, pour conduire la société à la transition vers une économie verte. Et quand on parle de l'économie verte, c'est tous les acteurs qui doivent se mettre en état d'alerte pour conduire ce processus. Et nous voyons à travers ce processus les PME vertes aujourd'hui. Mais il faut dire que c'est un secteur très actif, malheureusement confronté à beaucoup de problèmes, de difficultés. Et pour mieux se pencher sur ces difficultés, nous avons trouvé nécessaire de les regrouper, de les connaître localement à travers les activités spécifiques pour pouvoir régler ces questions-là convenablement. Et pour bien le faire, il faut faire un catalogue. L'idée de la création du catalogue des PME vertes, laquelle nous nous sommes réunis autour de cet atelier aujourd'hui.
Docteur, quelles sont les parties prenantes dans l'élaboration de ce catalogue des PME vertes?
C'est les structures ministérielles. Nous avons convié le ministère du Commerce, nous avons convié les ministères techniques de façon générale, mais également tout le secteur des PME est également partie prenante à cet atelier.
Vous avez également parlé d'un dispositif basé sur le changement de paradigme. Où se situe alors la difficulté?
Ce qui pose problème, c'est le modèle économique dans lequel nous nous retrouvons depuis des décennies. Ce modèle, c'est les modes de production et de consommation non durable qui constituent à prélever, à utiliser et à rejeter sans penser au renouvellement des ressources naturelles qui se font de plus en plus rares. Alors, il a été convenu après Rio qu'il fallait changer ce modèle économique et l'élément le plus juste qui a été trouvé est l'économie verte. L'économie verte qui, par définition, est une économie qui améliore le bien-être de l'homme et l'équité sociale et qui préserve les ressources naturelles. En quelque sorte, l'économie verte enseigne aux pratiques des modes de production et de consommation durable. Et parce que cela porte à la préservation des ressources qui nous maintiennent en vie.
Vous parlez de modes de production de consommation, c'est quoi exactement?
Oui, je prends un exemple banal dans l'agriculture. Il faut produire des biens pour notre mieux-être, mais quand je prends l'agriculture aujourd'hui, l'agriculture en termes de déforestation, l'agriculture est mise en relief comme le facteur principal à travers les cultures extensives. C'est ce qui est déconseillé aujourd'hui. Il faut faire des cultures intensives, exploiter de petites parcelles de terre avec toutes les technologies appropriées pour espérer avoir ce qu'on veut avoir pour pouvoir mener à bien sa vie.
Docteur, vous avez également parlé des quantités de consommation et de production. Alors,
oui, quand je parle de production, c'est les déchets qui sont rejetés dans tous les secteurs d'activité. Même le secteur du transport rejette des déchets, des véhicules qui sont abîmés, qu'on ne peut plus récupérer, des pneus usagés qui traînent ci et là. Aujourd'hui, il faut remédier à ce modèle qui nous crée pas mal de torts humainement parlant. Avec le nouveau modèle économique qui prévoit les modes de production de consommation durable, quand je prends l'exemple du transport électrique, c'est à la fois des véhicules qui polluent moins, mais dont les pièces peuvent être recyclées. Voilà comment il faut comprendre le nouveau paradigme économique qui est en conseillé au jour d'aujourd'hui.
Il a été aussi question de transition bas carbone. C'est quoi son impact réellement?
Quand on parle de la transition bas carbone, aujourd'hui, vous voyez, les changements climatiques sont la conséquence des émissions de gaz à effet de serre. À travers les changements climatiques, ce qui est ressorti, c'est le dioxyde de carbone qui est le gaz le plus déterminant. Aujourd'hui, on nous conseille de mener des activités qui n'impactent pas, qui n'émettent pas beaucoup de pollution de CO2, des émissions moindres, des émissions de dioxyde de carbone très faibles, même si on ne peut pas en avoir à 0%, mais il faut les réduire au maximum.
Quelles sont vos attentes à la fin de cet atelier?
Les questions donc des sur l'opportunité de cette activité après mettre en place un comité d'experts qui va se charger d'élaborer le catalogue. Une fois que le catalogue est élaboré, nous allons le soumettre à validation à toutes les parties prenantes. Si cela est fait, on va soumettre le projet à la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour validation et on définira par la suite d'autres étapes.
Merci infiniment, docteur Gbosho.
Je vous en prie.
Le directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Dr Owo Bosho Didier, l'invité de la rédaction de ce mardi, se prêtait aux questions de Paul-Bénédicte Bolou. Tout de suite, le rappel des titres. Fonction publique, plus de 72 000 candidats pour 375 concours administratifs lancés samedi à Yamoussoukro. Les épreuves se déroulent dans 9 centres de composition repartis sur l'ensemble du territoire national. Et cette année, l'accent est mis sur la lutte contre la fraude et la corruption. Vous avez entendu les précisions de la directrice de cabinet du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en début de ce journal. Un atelier de validation du plan stratégique de gestion environnementale et sociétale du programme d'appui au développement des filières agricoles a été organisé récemment à Korogo. C'est la fin de ce 12h. Mesdames, messieurs, merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous de l'actualité, 15h. Dans quelques instants, la revue de presse avec Aoussi Poutin. Excellente suite de programme sur Radio de la Paix.
Bonjour à toutes et à tous. 2025, c'est pour bientôt. Et cette année sera marquée en Côte d'Ivoire pour la tenue de l'élection présidentielle. Déjà dans les différentes chapelles politiques, c'est une forte activité tant sur le terrain que dans les différents états-majors qui se constatent. Et l'on parle aujourd'hui de façon récurrente de la commission électorale indépendante avec comme point de mire la liste électorale. Dans sa parution de ce jour, le quotidien gouvernemental Fraternité